Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine, on fait vite parce que pour tout vous dire, on est super en retard. On n'a absolument rien préparé pour l'apéro de divergence ce soir, donc on vous emmène faire les courses avec nous. Allez hop, c'est parti, on commence par les chips.
Ah bah non Lucie, non je suis désolée, les chips c'est dégueulasse, c'est plein de sel. Et franchement, bonjour les maladies cardiovasculaires. J'ai vraiment pas envie de faire une crise cardiaque à 50 ans, moi.
Ok, bah on les prend avec 25% de sel au moins.
Mais non, c'est du marketing, ça. Viens, on prend des tomates cerises.
Des tomates cerises en novembre, mais c'est pas du tout la saison, Aline. Les tomates de serre espagnoles, merci bien.
Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de charcuterie. Elle a l'air bien, la terrine de porc, là, et en plus, elle est bio.
Ah non, bio ou pas bio, les cochons, ils passent par les mêmes abattoirs, pas question que je mange ça. Et le cancer, en plus, je t'en parle même pas. Des amandes, ça c'est top, les amandes, c'est bon pour la santé.
Mais la sécheresse en Californie, on en parle, Lucie. Les méga-feux, les koalas en Australie, non, c'est pas possible. Viens, on se fait livrer des sushis.
Le poisson, c'est plein de plomb. Et comme malheureusement pour les comptes de divergence, le plomb ne se transforme pas en or, enfin sauf si pour les vendeurs de sushis.
Bon allez, on prend du rouge.
Ouais, et de la bière.
Ouais.
Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons consommation, et plus particulièrement consommation alimentaire. Selon les spécialistes de la question, trois critères principaux entrent en compte pour comprendre les processus complexes qui guident les préférences et les choix alimentaires de chacun. Dans ces trois critères, on retrouve les propriétés du produit, bien sûr, les croyances et connaissances du consommateur, dont on vient de vous faire une magnifique démonstration avec Aline, et le contexte de consommation. Notre invité aujourd'hui s'est intéressé à la manière dont les consommateurs prennent en compte les conséquences de leur alimentation, pardon, et à partir de là, elle a dressé une typologie des consommateurs. Les résultats de son étude, menée avec une chercheuse de Grenoble, ont été publiés dans la revue Décision Marketing. Ils ont également fait l'objet d'une publication plus grand public dans The Conversation le 3 novembre dernier. Avec nous, en studio, Andrea Gourmelen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheuse en marketing au laboratoire MRM, Montpellier Research in Management, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors, bon, bien sûr, en introduction, vous avez reconnu mon binôme pour les courses, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à la faculté de droit et sciences politiques où Alexis Verracel nous a fait découvrir son terrain de thèse, la bibliothèque d'histoire du droit. Enfin, notre invitée de dernière minute sera Catherine Alix Panabière, médecin au CHU et directrice de l'équipe de recherche cellules circulantes rares humaines. Elle nous parlera de la course tâche. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors Andrea, dans votre article, vous parlez de la considération des conséquences futures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, donc la considération des conséquences futures, c'est un concept en fait qui traite de la prise en compte des potentielles et lointaines conséquences d'un comportement qui peut avoir dans le futur, et donc justement le fait que ça influence nos comportements.
Et du coup, dans votre étude, on l'aura compris, on parle d'alimentation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'appliquer ce concept en particulier à l'alimentation ?
Bah déjà, il y avait plusieurs recherches déjà qui l'appliquaient à l'alimentation. Et donc, on a choisi de se positionner en fait dans la lignée de ces recherches pour voir justement comment ça pouvait dicter nos comportements alimentaires avec tous les problèmes actuels qui se passent, voilà, tout simplement.
Alors, vous avez travaillé à partir d'un échantillon de 28 personnes. C'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ?
Oui, donc une étude qualitative, c'est justement une étude sur un petit nombre de personnes, mais où on va aller en profondeur, en fait. C'est pas comme des questionnaires. Donc nous, on a fonctionné avec des focus groupes, hein, justement, donc avec ces trois groupes, les 28 personnes divisées en trois groupes. Et donc, on a creusé, en fait, des questions, justement, sur leur comportement alimentaire, et ils ont pu discuter entre eux. Et nous, on analyse ces discussions, en fait. Voilà.
Et du coup, ces 28 personnes qui constituent votre échantillon, comment est-ce que vous les avez sélectionnées?
Alors, tout simplement, en fait, c'était comme le projet a bénéficié d'un soutien à la recherche de l'Université de Montpellier. Donc, il y avait un financement pour fonctionner avec un cabinet d'études, en fait, qui a sélectionné les personnes, justement, pour qu'il y ait une certaine diversité. Parce qu'en fait, dans les trois focus group, on avait un focus group avec des personnes qui déclaraient avoir une alimentation classique, sans particularité. D'autres qui déclaraient justement faire attention. Donc, faire attention, ça pouvait être régime comme bio, comme local, enfin voilà. Et un autre groupe qui était constitué en fait d'un mix des deux, bah, pour voir comment ils allaient interagir entre eux. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était les discussions dans cette étude qualitative.
Alors justement, vous dites aussi que l'originalité de cette recherche, elle réside dans la méthodologie qui est mixte et qui allie quantitative et qualitative. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Oui, en fait, c'est vrai que dans cet article, bon, l'étude qualitative, elle prend beaucoup de place. Mais en fait, il y a deux études dans l'article. Il y avait une étude au préalable quantitative pour justement en fait, tester une échelle de mesure qui était dans la littérature sur justement les conséquences futures. Et nous, en fait, l'étude qualitative, elle nous a permis de creuser, en fait, parce que l'échelle originale, elle mesure, en gros, si on fait attention aux conséquences futures de son alimentation ou pas attention. Mais en fait, deux personnes qui peuvent avoir le même score sur cette échelle, alors elles peuvent être complètement différentes. Et avec l'échelle initiale, on ne sait pas. Par exemple, une peut prendre en compte les conséquences sur sa santé et l'autre sur la planète, par exemple. Alors, donc, ça n'a rien à voir. Et donc, nous, en fait, l'étude qualitative, ça a permis de creuser de quelles conséquences s'agit-il, en fait.
Alors justement, avant de rentrer dans le détail de la typologie que vous avez dressée, vous avez séparé donc ces conséquences en deux catégories, les conséquences sur soi et les conséquences sur les autres. Alors on va commencer par les conséquences sur les autres. Vous pourriez nous en donner des exemples?
Oui, alors là, j'ai dans l'article, hein, c'est page 66, enfin, c'est le schéma aussi qu'on a repris dans The Conversation. Les conséquences sur les autres, ça peut être des conséquences justement sur la planète, sur l'environnement, etc. Ça peut être aussi sur les animaux, hein, la condition animale, le bien-être animal, c'est apparu comme à part, justement. Ça peut être aussi comme l'économie du pays ou de l'emploi en France. Ça peut être les conditions de vie des producteurs aussi, pas forcément en France, mais ailleurs dans le monde. Et tout simplement aussi le lien social et les relations humaines, comme voilà, vous avez donné votre illustration au début, difficile de se mettre d'accord quand on veut manger ensemble, justement.
Alors, dans l'autre catégorie, qui est celle des conséquences sur soi, on pense, j'imagine, au poids, à la ligne, mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de conséquences, s'il y en a d'autres?
Oui, alors il y a aussi la santé qui est apparue, la santé physique, pas forcément le poids. En fait, le poids, il était beaucoup lié à l'esthétique, comme aussi les problèmes de peau. Donc, tout ça se rejoint un petit peu. Mais la santé, c'est plus général, en fait. Et il y a aussi la santé mentale et le bien-être. Certains ont parlé, par exemple, aussi du chocolat. C'est bon pour la santé mentale, même si faut pas trop d'excès pour la santé physique. Et aussi le pouvoir d'achat, évidemment, qui a été cité.
Alors justement, j'allais rebondir là-dessus. À l'heure où on parle d'inflation, cette question, elle ressort prioritairement ou finalement moins qu'attendue?
Alors là, en fait, la recherche, elle a été menée il y a quelques années déjà, les focus group, hein, parce que le temps de l'analyse en profondeur et de la rédaction de l'article. Mais c'est vrai que déjà, c'était quand même ressorti chez certains. Certains avaient cité le pouvoir d'achat alors que c'était beaucoup moins saillant que maintenant. Donc, on peut penser que peut-être cette conséquence pourrait grossir à l'avenir.
Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de votre étude, à partir de ces grands critères, vous avez établi 6 profils de consommateurs, dont un premier qui s'appelle les peu concernés.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, les peu concernés? Qu'est-ce qui les caractérise?
Alors, les peu concernés, c'est ceux qui ont, on va dire, une faible considération des conséquences futures. En fait, ça ne les intéresse pas vraiment. Et pareil aussi, l'alimentation, c'est des personnes qui typiquement vont dire « moi, je vais faire à manger parce qu'il faut manger ».
Et est-ce qu'ils sont nombreux, les peu concernés? Vous avez une idée de la proportion qu'ils représentent?
Alors justement, comme c'est une étude qualitative, ça je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. C'est des groupes qu'on a fait à partir de 28 personnes. Et ça, ça peut évoluer aussi à travers le temps, je pense.
Alors la deuxième catégorie, c'est les altruistes. Donc on s'en doute, ils sont plus dans les conséquences sur les autres. Mais ce que vous dites, c'est qu'ils prennent surtout en compte la condition animale.
Oui. Oui, alors c'est vrai que on les appelait les altruistes parce qu'ils étaient beaucoup plus sur les conséquences sur les autres que les conséquences sur soi. Mais la cause animale, en fait, elle ressortait comme point commun en fait entre ces gens de la typologie. Ça aussi, c'est un résultat qui peut surprendre parce que c'était leur conséquence sur les autres la plus importante. En fait, ils font attention au bien-être animal et certains sont même végétariens ou végétaliens. Du coup.
Et c'était il y a quelques années, ça, donc on peut imaginer encore une fois que ça doit fortement augmenter ces derniers temps.
Oui, alors pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on avait quand même essayé de diversifier au maximum notre échantillon pour qu'il y ait une certaine diversité, ce qui est en fait le garant de la qualité d'une étude qualitative en fait.
Alors parmi les profils, il y en a un qu'on a trouvé un peu étonnant qui s'appelle les éducateurs alimentaires. Ça nous a paru moins explicite. Qu'est-ce que c'est un éducateur alimentaire? Comment il se comporte?
Oui, alors eux, ils se préoccupent des conséquences sur les autres. Mais en fait, il y a un décalage en fait, avec les conséquences qui vont juger importantes. En fait, les conséquences sur soi, ils vont les évoquer très spontanément. Mais dans leur vie quotidienne, ils vont prendre en compte les conséquences sur les autres. En fait, ils veulent avoir une influence sociale. En fait, ils veulent éduquer un petit peu les autres. Notamment, on avait des personnes qui avaient des enfants et donc qui se sentaient concernées par ça, leur éduquer certaines valeurs liées à l'alimentation parce qu'eux n'ont pas forcément eu une éducation alimentaire très saine pour certains. Et d'autres non, mais en tout cas, ont cette volonté de transmission, en fait.
Alors ensuite, on trouve les healthy, donc de health santé. C'est la santé ou c'est l'esthétique leur
Alors c'est plus l'esthétique qui ressort, c'est vrai. C'est la plus importante pour eux et la plus prise en compte dans leur choix. Donc là, ils vont faire attention parce qu'ils peuvent prendre du poids facilement ou avoir des boutons s'ils mangent trop de charcuterie, ce genre de choses. Et en fait, dans un second temps, ils vont quand même s'intéresser aux conséquences sur les autres, en fait, comme un bien-être global, le bien-être de soi et le bien-être des autres. Donc, il y a ce mélange un petit peu de soi qui apparaît en premier, notamment au niveau esthétique, puis des autres, et de soi en même temps au niveau bien-être.
Est-ce qu'on peut dégager, alors même si c'est un petit échantillon, est-ce qu'on peut dégager un minimum de profil? Est-ce que c'est plus des jeunes personnes qui vont être healthy? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus... Ou ça ne permet pas de dire ça?
Alors, ça ne permet pas de dire ça, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché. On a l'impression que se dire que c'est des femmes. Et voilà, les deux gros profils healthy, justement, c'était des hommes. Donc, comme quoi, faut pas se laisser avoir par les clichés là-dessus.
Alors un autre profil, c'est les anxieux. Qu'est-ce que c'est leur préoccupation? On imagine que c'est la santé davantage?
Alors c'est vraiment en fait, oui, mais toutes les conséquences en fait. Ils sont très très préoccupés ces gens-là par beaucoup de conséquences futures de l'alimentation et en fait ils veulent un peu tout prendre en compte, notamment la santé pour les conséquences sur soi. Donc il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui ont connu des opérations et qui sont évidemment dans ce groupe, mais pas que. Mais il y a aussi des conséquences sur les autres. Donc, en fait, ils cumulent un petit peu toutes les conséquences, d'où cette anxiété, justement, à trouver des produits qui leur correspondent.
Et alors, du coup, même remarque sur les healthy, est-ce que pour les anxieux, on peut dégager un profil? Est-ce que c'est plus des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes?
Non, pas vraiment, encore une fois, parce que c'est une étude qualitative, mais c'est vrai que les personnes qui avaient eu des problèmes de santé se retrouvent plus facilement dans ce profil, mais il n'y a pas que des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Donc vraiment aussi, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, je pense que certains le prennent beaucoup pour eux et du coup, on magasine toutes les conséquences qu'il faut prendre en compte et ce qui peut être difficile pour trouver des produits au quotidien.
Oui. Et on termine par les décomplexer. Alors, c'est la grande bouffe, non?
Non, pas forcément. Mais en fait, c'est plutôt le plaisir de manger, en fait. Ils se disent, ben, de toute façon, en fait, quand ils s'expriment, c'est plutôt pour dire, ah ben non, ça, je prends pas en compte. Ça, je prends pas en compte. Plutôt que dire, ça, je prends en compte, je prends en compte. Parce qu'en fait, ils se disent, mais il y a tellement de choses tant pis, moi, je mange ce produit parce que j'aime bien. Ou alors, ils vont me dire, ben non, par exemple, commerce équitable. Moi je prends pas en compte parce que ça coûte trop cher de toute façon, ils aiment bien aussi le côté convivial de l'alimentation et un petit peu le faire au feeling, en fait, tout simplement.
Et est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des consommateurs qui appartiendraient à plusieurs catégories? Est-ce qu'on peut être à la fois altruiste et anxieux, ou elfie et éducateur alimentaire? Ou est-ce que ces catégories, elles s'excluent les unes les autres?
Non, normalement, c'est une typologie. Alors, c'est pas une typologie quantitative où on fait des statistiques pour vraiment s'assurer, en fait, que la personne, elle appartient à un seul groupe, parce que c'est aussi le but du marketing. Hein, c'est vraiment de segmenter pour qu'un consommateur, il appartienne à un seul segment. Donc, en qualitatif, il n'y a pas de vérification aussi poussée, mais normalement, en fait, la typologie, hein, qui est dans les annexes, ça montre en fait différentes branches. Et donc, ces branches-là, en fait, ça montre que les personnes, elles sont, exclusives. En fait, vous avez les noms, les prénoms des personnes. Donc ça, c'est la dernière page, hein, c'est page 84, avec justement les petits groupes qu'on a trouvés.
Alors, en conclusion de votre article, vous affirmez qu'il est illusoire de vouloir créer un produit qui convienne à tout le monde. Donc finalement, ce type de typologie, elle est beaucoup utilisée dans le marketing. Elle sert à quoi concrètement? Est-ce que c'est utilisé?
Alors, j'espère que ça va être utile. Donc, pour l'instant, non, parce qu'elle vient de sortir. Donc, forcément qu'elle n'est pas utilisée. Mais, en fait, l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans l'actualité plein de choses. La planète, le bien-être animal, la santé, etc. Pas trop de sucre. Et donc, il pourrait y avoir cette tendance de dire, on va créer un produit qui va prendre en compte toutes les conséquences possibles, celles qu'on avait énumérées dans le tableau. Mais nous, en fait, ce n'est pas notre parti pris de faire ça, parce que sinon, clairement, il n'y aurait pas grand-chose dans le produit, quoi. Et c'est de s'adresser, en fait, à un segment. Et donc, là aussi, en marketing, c'est de cibler, par exemple, qu'une marque se dise, je vais cibler, les éducateurs alimentaires, par exemple, et en prenant un produit qui se transmet de génération en génération, par exemple, ou encore, je vais parler des conséquences sur la santé et je vais créer un aliment santé. Donc, on a mis quelques exemples aussi pour expliquer en quoi tel ou tel produit pourrait prendre en compte telle ou telle conséquence. Des exemples qui existent dans la vie quotidienne. Donc là, par exemple, on a parlé des contenants réutilisables chez Burger King pour justement plutôt ce qui est planète, en fait. Mais on ne peut pas avoir un contenant réutilisable et en même temps, une boisson santé, mais à la fois qui donne de l'énergie. Enfin, en fait, ça fait trop et ce serait pas possible, donc mieux vaut choisir un segment, le cibler et s'adresser à lui, en fait, en fonction des conséquences qu'il prend en compte pour que les personnes qui appartiennent à ce segment, elles sentent que le produit, il est fait pour elles, en fait.
Bien, un grand merci, Andrea Gourvelaine, pour toute cette explication de cette étude. C'était passionnant. Donc, à chacun maintenant. Vous savez, vous, dans quel profil vous vous situez?
Oui, mais je ne vous le dirai pas.
on a fait le test aussi.
Ah, nous. Super.
On ne le dira pas non plus.
et revenez quand vous voulez.
Merci.
Merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, nous nous intéressons à la recherche en droit. Et c'est Alexis Verassal, doctorant en histoire du droit, qui nous fait découvrir son terrain de recherche. Alors, pas de destination exotique ici, mais un voyage dans l'histoire, 18e, 17e et même 16e siècle. La bibliothèque d'histoire recèle des trésors qu'Alexis nous fait le plaisir de nous dévoiler.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58,
57, 56.
Alors, nous sommes ici dans la bibliothèque d'histoire du droit, donc qui dépend de l'Institut d'histoire du droit. Y ont accès les doctorants, y ont accès les professeurs.
Donc ici, en fait, on est dans votre laboratoire de recherche, un peu, en quelque sorte.
Les chercheurs en droit, ils cherchent du droit, et le droit, il se trouve dans des vieux bouquins. En même temps, il y a quelque chose de très moderne là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réinvestir ça dans un monde contemporain, dans un monde moderne, on va essayer de trouver des mécanismes juridiques.
Il y a une très bonne odeur de papier ancien qui flotte dans l'air. Il y a combien d'ouvrages à peu près ici?
Au doigt mouillé, on est à peu près à 11 000 documents.
11 000 documents, et alors juste avant l'interview, vous me disiez que le plus vieux document datait de quand?
Le plus vieux, il date de 1538. C'est un ouvrage de Jacques Rebuffy sur les constitutions royales et gallicanes.
Quelle est la période qui est la plus représentée dans cette bibliothèque?
Celle qui saute le plus aux yeux, c'est celle qui est juste en face de nous, c'est le 19e. Effectivement, donc vous avez ici les bulletins de la Cour de cassation, les discussions, enfin les travaux préparatoires au Code civil, différentes versions du Code civil, et tous les grands noms, en fait, de la doctrine civiliste du 19e siècle. On a aussi pas mal d'ouvrages du 17e, 18e siècle autour du droit romain et autour du droit coutumier.
Alors, à côté de moi, il y a une bibliothèque qui est protégée sous verre. J'imagine que c'est des livres anciens, encore plus anciens.
Effectivement, il y a des livres très anciens. Il y a notamment un livre d'un monsieur que j'aime beaucoup, puisque c'est en lien avec mon sujet de thèse. C'est un tableau des différences entre les religions de Philippe de Mornix qui date de la fin du 16e siècle. Donc, ce sont des livres vraiment très anciens, parfois très précieux ou parfois assez rares.
Vous pourriez nous en montrer un, votre préféré peut-être?
Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un tout petit format, assez épais. Donc on est à la fin du 16e siècle, en milieu des guerres de religion en fait. Donc Philippe de Mornix, c'est un protestant qui écrit en fait contre les catholiques, mais qui écrit avec beaucoup d'ironie en fait. Parce qu'il se fait passer pour un catholique romain. Il s'inspire beaucoup de Rabelais, des choses comme ça. Donc on est en plein dans ce 16e siècle Renaissance foisonnant d'idées.
Je vous vois tenir ce livre à pleine main. Il n'y a pas de précaution à prendre.
On ne prend pas de gants parce que le fait de mettre des gants, ça fait perdre de la sensibilité au bout des doigts. Donc on risque de forcer sur le papier. C'est du papier qui est ancien. Bon, c'est du papier de relativement bonne qualité. Il est épais, il est souple.
Oui, il est dans un état de conservation absolument incroyable, ce livre. Alors, la bibliothèque qui est derrière moi, qu'est-ce qu'on voit?
Vous avez alors ici ce qu'on appelle les pandects, c'est ce qu'on appelle aussi le digeste. Le digeste, c'est vraiment le grand texte de droit romain, s'il en est. Donc c'est un recueil d'extraits de la doctrine du droit romain qui avait été exécuté sous l'autorité de l'empereur Justinien, publié en 533. Ici, ce sont des éditions du 17e, donc qui sont relativement récentes.
Quel nom amusant pour un livre qui a l'air de peser 100 kilos.
Bah parce que digeste, en latin, ça désigne ce qui est ordonné. Donc il y a l'idée quand même d'une rationalisation de cette jurisprudence qui auparavant était très éclatée. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence à l'époque, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine.
Elle a un thème, cette partie non, de la bibliothèque?
Il y a eu un début de classement qui a été fait surtout à ce niveau-là, là où on a essayé de regrouper par thématique droit civil, droit commercial, droit public... Droit canonique ici. Ici, on a de la doctrine. Donc, vous avez Loiseau, vous avez Pasquier. Mais en fait, on est très contraint par la taille des ouvrages et la taille des rayonnages. Il y a l'embarras du choix, mais du coup, tout à l'heure, je vous parlais de cela, là, les ordonnances des rois de France. Vous avez ici tous les textes royaux. Alors, on n'a pas la collection complète, hein, qui part de 1031 à 1422, donc à peu près fin du règne de Charles VI. Et ce qu'on voit ici d'être très intéressant, c'est que déjà sur la tomaison, tome 1, on est sur une période de temps d'à peu près de 300 ans, donc ça reste un bouquin assez gros. Et le dernier tome... Il commence en 1419, il s'arrête en 1422, et pourtant il est aussi gros que le tome 1. Donc on voit quand même que petit à petit, le roi commence à recouvrer un pouvoir législatif important. Donc déjà, pédagogiquement, ce sont des bouquins intéressants.
Et oui, visuellement déjà, on peut se rendre compte un peu du poids du droit et de son évolution. Parce que c'est pas un petit livre que Alexis est en train de nous sortir là.
Déjà, très très belle couverture. Très très bien conservé, c'est du cuir vert. Et ça, c'est les pages de garde qui sont très très belles. En fait, c'est obtenu par les réactions chimiques des cols.
C'est vraiment magnifique, oui. Et comment on se repère dans un livre comme ça? J'imagine il y a un sommaire, il y a quelque chose comme ça. Ce serait trop facile.
Alors, vous avez une table des matières, tout à la fin, là. Et une table des noms de provinces, si vous cherchez par province. Une table chronologique, ça c'est pratique. Si vous avez une connaissance un peu de la chronologie... Par exemple, là, je veux, là, je vois, il y a, dans la table des matières, vous avez des privilèges accordés aux nobles et autres habitants d'Auvergne. Je sais que c'est à la page 405. 405, voilà, là vous l'avez, lettre en faveur des barons et nobles ayant justice en pays d'Auvergne. Voilà, donc vous l'avez en latin, vous avez des notes, et vous ne l'avez qu'en latin.
Des livres comme ça, c'est rare ou on en trouve dans beaucoup d'universités hein?
En fait, il faut savoir qu'avant, c'était des ouvrages qui étaient largement diffusés, et puis à la Révolution, à la faveur des incendies, c'est quand même des vieux ouvrages, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais la plupart du temps, dans la plupart des laboratoires d'histoire du droit, vous aurez quand même des ouvrages comme ça. À Paris 2, ils ont une très très belle bibliothèque d'histoire du droit aussi, à l'Institut Jean Godemel.
On est surpris de la culture que vous avez avec votre jeune âge. Vous êtes combien de doctorants à travailler en histoire du droit ?
On est une quinzaine.
Alors, dans ces boîtes bleues mystérieuses, là, qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, d'autres bouquins, des bouquins qui sont particulièrement anciens ou un peu abîmés. Moi, celui que j'aime beaucoup.
Alors, on l'ouvre. Chouette.
Alors, ça, c'est un recueil. Codicis, un code de loi wisigothe. Bon, il n'est pas d'époque, hein, évidemment, mais qui vient en fait résumer, compiler en fait les lois wisigothes donc, qui s'appliquaient de la chute de l'Empire romain, donc 5e siècle, jusqu'à la fin, l'extinction en fait des lois ethniques qui s'appliquaient jusqu'à peu près au 9e siècle. D'accord. Donc une fois qu'il n'y a plus de différence ethnique entre les gens.
Et alors pourquoi c'est votre préféré celui-là ?
Parce qu'il est un témoignage d'une époque où, finalement, malgré la perte d'une autorité centrale, qui était l'Empire romain, on a réussi à maintenir un semblant de vie commune, malgré les différences ethniques, malgré les différences de culture. On a permis à chacun de garder son droit. Visigoths et gallo-romains pouvaient vivre sur le même territoire avec leurs droits propres. C'est ce qu'on appelle la personnalité des lois. On applique le droit qui est propre à son ethnie. Voilà, mais c'est quand même le souvenir d'une époque où, finalement, on essaie de bricoler un peu des choses pour maintenir un semblant de vie commune.
Merci beaucoup Alexis, c'était vraiment passionnant.
De rien.
Un grand merci à Alexis Verracel pour cette visite. Notre invité de dernière minute est déjà venu il y a quelques semaines nous parler de l'exposition Cancer à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Cette semaine, Catherine Alix Panabière revient pour nous parler cette fois de la course tâche.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... 55.
Bonjour Catherine Alix Panabière, vous êtes docteur au CHU de Montpellier et vous dirigez l'équipe de recherche Cellules circulantes rares humaines où vous travaillez entre autres sur la biopsie liquide, on va y revenir. Mais d'abord vous êtes venu nous parler de la première édition de la course tâche qui aura lieu le 20 novembre prochain. Alors qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est effectivement une course qui était en fait avant comme les bacchantes, qui aujourd'hui s'appelle course tâche. Et en fait, on veut effectivement essayer de récolter des fonds et de montrer l'importance de faire la recherche au mois de novembre, le Movember, contre les cancers masculins. Donc cette course particulièrement dimanche 20 novembre sera en fait dédiée au cancer de la prostate, spécifiquement pour un projet qu'on développe au sein de notre laboratoire à l'université et au CHU de Montpellier.
Alors le cancer de la prostate, est-ce qu'il se soigne bien aujourd'hui ?
Alors oui, effectivement, ça se soigne bien quand il est pris à temps. Et c'est pourquoi on souhaite mettre en avant et utiliser la biopsie liquide, hein, le simple prélèvement sanguin dans lequel on peut accéder à des éléments circulants dérivés de la tumeur, mais aussi du système immunitaire, afin justement d'être très précoce, peut-être dans le dépistage d'un cancer de la prostate, mais aussi savoir si ce cancer de la prostate est agressif ou non.
Donc ça veut dire qu'avec une simple prise de sang, aujourd'hui, on peut faire un diagnostic de cancer pour la prostate ?
Alors pour l'instant, non. Mais justement, on est en train de mettre un maximum d'efforts au niveau de notre laboratoire, bien sûr à Montpellier, mais aussi dans un projet européen pour essayer justement de dépister demain un cancer de la prostate. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment tout l'objet de cette étude que l'on développe. Et c'est l'objet aussi de cette course tâche d'avoir des fonds pour aller encore davantage dans cette direction.
L'ensemble des fonds sera reversé à votre laboratoire, c'est bien ça ?
Là, on voulait vraiment focaliser sur le cancer de la prostate pour ce projet précisément. Mais aussi, on développe, grâce à la SAT AXLR, une société de transfert de technologie locale, on est en train de développer un nouveau système de détection des cellules tumorales circulantes vivantes. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de mettre en avant que l'on aura développé localement, donc au CHU à l'Université de Montpellier, pour essayer de dépister peut-être encore mieux demain le cancer de la prostate.
Très bien. Donc la course tâche, elle est ouverte à tout le monde, c'est bien ça? On peut y aller avec son entreprise, avec ses amis, ses voisins?
C'est assez rigolo de pouvoir courir, et surtout, attention, avec la moustache, c'est-à-dire que c'est une course où hommes et femmes auront des moustaches, alors soit naturellement, soit on va les coller.
Et donc je rappelle, donc la course, elle a bien lieu dimanche à 10h, donc place du marché aux fleurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi. Et peut-être un mot, Catherine Elix-Panabière, on ne l'a pas dit, combien de kilomètres?
Alors je crois qu'on est autour de 8, mais en même temps, on n'est pas obligé d'être un grand coureur, hein, puisque si effectivement on veut le faire à pied, en famille, avec les enfants, c'est possible aussi. L'idée, c'est de se retrouver le dimanche 20 novembre, tous ensemble à Montpellier.
Merci beaucoup et rendez-vous dimanche alors.
Merci à vous. À très vite, au revoir.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Alors un dernier message pour vous annoncer que le lundi 21 novembre, la faculté d'économie, dans le cadre des rendez-vous de l'éco, organise une table ronde sur le prix de l'énergie avec le professeur spécialiste d'économie Jacques Percebois. C'est à 18h30 sur le campus Richter. Et le lendemain, le mardi 22 novembre, c'est Séverin Pistre, hydrologue à l'Université de Montpellier, que nous avions reçu l'année dernière, donnera une conférence sur le thème sécheresse, inondation, le cycle de l'eau dans la tourmente climatique. Et c'est le 22 à 19h, salle de réception des Verriès à Saint-Gély-du-Fesc. Donc l'événement est organisé par l'Association des Amis des Sciences de la Terre et du Climat en Pic-Saint-Loup. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
La version complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.